une race de frais, dont l'âme comme une fourmesse a de son feu brûlé la chaîne. Pour ceux qui se naissent sur la paille, pour balai, ils n'ont qu'un taudis. C'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème, qui sans souper il me rêve, à sonner à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est la crédit qu'il fait ripaille, qui loge et qui la déshabille. C'est la canaille, eh bien j'en suis. Il fredonnait la Marseillaise, nos frères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que nos trembleurs ont dit depuis. C'est la canaille, et bien j'en suis. Debout les damnés de la terre, et debout les fossats de la fin. La raison tenant son cratère, c'est l'éruption de la fin. C'est l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase, où l'esclave debout debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, contre nous et demain. L'internationale sera le genre humain.
Sera le genre humain. Amis auditeurs, amis auditrices, bonjour, vous êtes bien sur la clé des ondes 90.1 en ce mercredi 5 juin 2024. Vous avez l'émission Acétone qui commence à l'instant. C'est notre quatrième table politique pour ces élections européennes qui auront lieu dimanche 9 juin. Et c'est bien évidemment notre dernière table politique. Voilà, et nous allons la faire avec notre ami et camarade Rémi qui va représenter Lutte ouvrière. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Voilà, alors on attend toujours la représentante du Parti Socialiste qui devait être là mais qui n'est pas là, donc qui a dû avoir un contretemps. Tant pis, on va commencer l'émission sans elle. On verra bien si elle arrive après dans l'émission. On s'adaptera bien évidemment. En face de toi Rémi, tu as Jean-Luc Gasnier qui est militant à Attaque 33. Merci Jean-Luc d'être là.
Ben de rien.
Tu nous as préparé des questions ?
Oui, quelques questions. Ben, je vais préparer un certain nombre de questions pour la camarade du PS.
Oui, j'espère que je pourrais. Apparemment, elle a peut-être eu peur de la clé des ondes et des questions possibles. Bon, écoute, hein, on ne va pas préjuger. Elle va peut-être, venir en cours et puis on va s'adapter. Bon, toujours est-il que on va faire une table sur ces élections européennes et on va parler de l'Union européenne puisque ça fait 4 mercredis que l'on parle de l'Union européenne. Alors, on va commencer l'émission par les institutions européennes comme d'habitude. Hein. Jean-Luc, tu vas nous lire le petit papier après le sonal.
Assez de ces années volées juste pour nous faire douter de la couleur bleue.
Et le petit papier, c'est élections européennes, les nationalistes sans frontières.
À l'issue des élections européennes du 6 au 9 juin, l'extrême droite pourrait gagner des dizaines de sièges au Parlement européen. Honte à ceux qui ont minimisé la menace ou qui ont délibérément détourné le regard. L'Allemande a d'abord ouvert la fenêtre, puis la porte. Et maintenant, elle a clairement fait savoir qu'elle levait le barrage à l'extrême droite, au cœur même de l'Union européenne, le Parlement européen. Le média indépendant espagnol El Diario revient sur la montée de l'extrême droite en Europe et sa banalisation par ses représentants. Il cite les propos d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne et membre du parti de droite allemand CDU, qui s'est dite prête à collaborer avec la première ministre italienne Giorgia Meloni du moment qu'elle se montre pro-européenne et respecte l'état de droit. Or, le parti de Meloni, Fratelli d'Italia, est membre au Parlement européen du groupe d'ultra-droite réformiste et conservateur européen, ECR, dont font aussi partie les élus espagnols de Vox, ceux polonais du PiS et pour la France, celui de Reconquête.
Alors, Rémi, je pense que tu as analysé les sondages au niveau de l'élection européenne. Là, dans le petit papier, on dit, ils disent « honte à ceux qui ont banalisé cette montée de l'extrême droite, etc. » Mais « honte aussi à ceux qui ont acculé les peuples à un vote extrémiste, puisque dans les faits, l'Union européenne, elle a changé quoi dans la vie des peuples, Rémi ?»
Alors, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle a changé dans la vie des peuples? Pas grand-chose, en tout cas, pas grand-chose de bien, mais il n'y avait pas grand-chose à y attendre, parce que l'Union européenne, elle est là pour répondre aux intérêts des capitalistes. Elle a été créée pour répondre aux intérêts des capitalistes, puisque bien que les pays d'Europe, tout en étant rivaux, ils ont eu besoin de s'unir pour faire face à l'économie américaine, etc. Et donc, c'était une union pour faire des affaires. Donc, le monde du travail, il n'a rien à obtenir de l'UE, mais il n'obtiendra rien non plus de l'État français. Car, en fait, c'est des institutions qui sont dévouées au service des capitalistes. Et donc, le problème, c'est ni de sortir, ni de rester dans cette union. La seule perspective qui vaille, eh bien, c'est de renverser le capitalisme.
Ces peuples, alors tu dis, c'est renverser le capitalisme. Les institutions européennes sont faites pour mettre en place le capitalisme au moyen d'une économie libérale. Et il faut effectivement combattre le capitalisme. Mais en tout cas, aujourd'hui, le capitalisme a acculé les peuples au désespoir et les accuse et les accule à un vote quand même extrémiste. On le voit bien hein, sur les perspectives au niveau des sondages. C'est quand même gravissime puisque ils font le choix de la bête immonde, dans les faits du retour de la bête immonde.
Oui, je crois que on a raison d'être inquiet de la montée de l'extrême droite en France et en Europe. Mais moi, ce que je voudrais souligner aussi. C'est la responsabilité des partis de gauche qui à chaque fois qu'ils ont accédé au pouvoir, eh bien ils ont montré qu'ils n'étaient pas dans le camp des travailleurs. Ils ont servi la soupe à la grande bourgeoisie et c'est ça qui a créé de la déception. Et d'autre part, ils ont abandonné les idées internationalistes, les idées révolutionnaires. Que par exemple le Parti Socialiste, le Parti Communiste défendaient à ses origines. Et ils ont, d'une certaine manière, réintroduit toutes les idées nationalistes, tout le patriotisme, etc., parmi les travailleurs. Et nous, c'est ça qu'on veut combattre dans cette élection, c'est ces idées nationalistes, ce poison, et surtout dans cette période, j'espère qu'on en parlera, de marche à la guerre.
Alors, Jean-Luc.
Oui, justement, pour s'opposer au nationalisme et à cette marche à la guerre, et puis en attendant le grand soir, qui n'est peut-être pas encore pour demain, n'aurait-il pas fallu privilégier malgré tout, pour faire barrage à l'extrême droite, donc l'alliance, notamment avec la France Insoumise, avec Révolution Permanente, par exemple, est-ce que lutte ouvrière était fondamentalement opposé dès le départ à une alliance des gauches pour justement faire barrage à cette extrême droite. Parce que depuis beaucoup de... Enfin, en général, hein, pour toutes les élections, vous vous présentez, disons, seul.
Oui, c'est vrai.
Voilà, quelle est votre réflexion
sur ce sujet ? C'est vrai pour la plupart des élections, et c'est le cas encore cette fois aux élections européennes, on se présente indépendamment.
Mais avec aucune chance finalement d'avoir un élu et donc de faire barrage.
Oui, ça sans doute ouais. Qu'on fera un petit pourcentage, mais nous, ce qui nous importe dans cette élection, c'est de dire que cette société, on pourra pas la renverser par, on pourra pas la changer par les élections, et même d'ailleurs combattre l'extrême droite, c'est une illusion que de penser que la NUP. De penser que les partis de gauche, Mélenchon et compagnie, pourront apporter des solutions à ça. Nous, on pense que, justement, quand ils arriveront au pouvoir, parce que ça n'est pas des révolutionnaires, parce que ils se posent pas le problème de s'attaquer au pouvoir de la grande bourgeoisie, d'exproprier les capitalistes, que ça soit les travailleurs qui contrôlent. Et bien, parce qu'ils se posent pas ce problème-là, de toute façon, ils mèneront une politique en faveur du patronat qui favorisera l'extrême droite. Et il y a plein d'exemples dans l'histoire qui illustrent ça. On peut parler de ce qui s'est passé en 1933, au moment où Hitler a pris le pouvoir. On peut parler de la situation au Chili dans les années 70, avec Allende. Voilà, tous ces exemples-là, ils nous montrent que la gauche... C'est institutionnel qui veut gérer le capitalisme, ça n'est absolument pas un rempart contre l'extrême droite, et au contraire, ça le favorise.
Mais n'est-ce pas d'une certaine façon quand même, malgré tout, pratiquer la politique du pire ou favoriser la politique du pire, puisque de fait, lorsque les partis de gauche ne s'allient pas, il est évident que ça laisse un boulevard à la droite, voire à l'extrême droite désormais, puisque... le Rassemblement National va probablement arriver largement en tête à cette prochaine élection. Et...
De toute façon, je pense que ça ne sera pas le score que nous allons faire qui va manquer à la gauche pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et nous, encore une fois, on n'a vraiment pas envie de s'allier, de faire des listes électorales avec ceux qui participent. Moi, je pense que la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, le PCF, ils participent à cultiver ces idées nationalistes qui font le lit de l'extrême droite. Mélenchon, bon, en ce moment, c'est pas trop son propos, c'est surtout la Palestine, etc. Mais combien de fois il y avait la polémique contre les Tchétchènes en 2021, je crois, ou peut-être plus récemment, où il avait, où après plusieurs épisodes où des Tchétchènes étaient impliqués dans. Il y avait des rodéos urbains à Dijon et il y avait eu des attentats. Par des Tchétchènes, et il avait dit il faut revoir tous les dossiers des Tchétchènes. Et bien ça, c'est cultiver le nationalisme et c'est faire le terrain de l'extrême droite. Et des exemples comme ça, je peux en trouver, j'en trouve, c'est Mélenchon, mais bon, il y en a dans tous les partis de gauche. Et bien nous, lutte ouvrière, on veut planter un autre drapeau, celui de l'internationalisme. On veut lutter contre les divisions entre travailleurs et on veut dire que si les travailleurs ils veulent combattre l'extrême droite, eh bien, ils pourront le faire que par leur propre force, celle des luttes, celle de leur combat.
Dis-moi Rémi, le 6 juin, c'est le D-Day, c'est l'anniversaire du débarquement de la Seconde Guerre mondiale. Le 9 juin, il risque d'y avoir quand même une erreur historique de fait. Est-ce que pour toi, les citoyens, citoyennes qui iront voter auront oublié leur passé ? Parce que là, dans les faits, le capitalisme, les élites financières ont fait le choix, ils font le choix d'Hitler plutôt que la révolution internationaliste.
Oui, alors...
comment Et dire? Les peuples risquent de suivre avec leur vote.
Je pense pas que... moi, je dirais pas que les travailleurs... qui choisissent de voter pour Jordan Bardella, par exemple, font le choix d'Hitler. Je ne le présenterai pas comme ça. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est que la conscience du monde du travail, elle est, elle est bien retombée par rapport à ce qu'elle a pu être dans le passé. Cette conscience que, franchement, les politiciens d'extrême droite qui nous divisent, qui passent leur temps à nous monter les uns contre les autres, les étrangers contre les Français, les chômeurs, les assistés contre ceux qui travaillent, etc. Eh bien, cette conscience-là, elle a disparu du monde du travail. Et nous, c'est notre objectif, c'est de la réintroduire, enfin, cette conscience-là qu'on est une classe sociale internationale et qu'on doit diriger la société. moi, je pense que le même si évidemment Bardella, c'est un gros raciste et il défend des idées d'extrême droite, etc. Je pense pas que tous ces électeurs ils votent pour ça. Moi, je pense que justement c'est le fait qu'on ait que la gauche ait abandonné l'internationalisme, etc., qui a ouvert un boulevard ensuite à l'extrême droite. Et enfin voilà, c'est
pas cassé. Il n'y a qu'à si. Pour la casser, il n'y a qu'à si.
On va passer, Jean-Luc, sur le deuxième point, c'est la finance européenne, politique monétaire. Et le petit papier qu'on a choisi, c'est un papier très court, c'est la régulation financière européenne. Tu peux le lire ?
Alors, la crise financière de 2008 a fait apparaître les limites de la régulation depuis 2011 et la nécessité d'une régulation harmonisée à l'échelle européenne. Dans ce contexte, la Commission européenne a décidé de mettre en place un système de régulation uniformisé d'un État membre à l'autre. C'est de cette volonté qu'est née le 1er janvier 2011 la nouvelle structure de surveillance européenne, le système européen de surveillance financière.
Alors, t'en as entendu parler, toi, de ce système européen de surveillance financière tu t'es penché dessus, non, ou pas?
Pas du tout, avant l'émission.
Avant l'émission, tu ne connaissais pas.
Non,
en tout état de cause, toi qui défends le programme de lutte ouvrière aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée et de l'Assemblée parlementaire européenne, quels sont les moyens d'un député pour justement peser sur les régulations financières? On a l'impression que les députés ne peuvent rien faire au niveau de la régulation financière de l'Europe.
Ben, je crois que tu as raison. Hein.
Je ne me trompe pas.
Que tu ne te trompes pas, ouais. Quand tu dis ça, parce que effectivement, le Parlement européen, comme tous les parlements nationaux, en fait, ils sont là pour masquer la dictature des capitalistes. C'est l'enrobage démocratique, on nous fait voter, etc. Pour nous mettre en tête qu'on peut, on peut décider. Alors ça, c'est dans les pays riches, hein, que tout ça est permis. Dans les pays pauvres, il n'y a même pas les élections et même pas le Parlement. Mais bien sûr que non, le système capitaliste, on peut pas le réguler. Il n'y a pas d'instance supérieure. L'instance supérieure dans la société capitaliste, ben, c'est la classe capitaliste. Le Parlement, il est là au contraire pour servir les intérêts des patrons. Ça se voit par plein d'exemples. Enfin, notamment, peut-être on en parlera tout à l'heure à propos des questions climatiques, mais l'Union européenne, ils ont prolongé l'autorisation du glyphosate, alors même qu'on sait que ça fait des tas de morts, etc., mais pour faire du profit. Et tout est comme ça dans cette société. Et l'Union européenne, effectivement, ça va pas nous empêcher, ça peut pas empêcher les capitalistes de nuire. Mais en même temps, même sans l'Union européenne, les capitalistes, ils ont tout un tas de moyens quand même de nous nuire. Donc, c'est pas non plus le problème principal.
Et au niveau de la structuration de l'Union européenne, justement, tu dis que c'est absolument pas démocratique, c'est l'apparence de la démocratie, c'est l'enrobage, hein, tu le dis très bien, c'est l'enrobage démocratique. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, d'après toi, au niveau des institutions financières pour mettre de la démocratie, d'une démocratie réelle, une démocratie citoyenne, participative, peut-être dans ces institutions européennes, dans cette institution européenne?
Moi, je pense que on pourra pas démocratiser ces institutions sans passer par une révolution sociale, sans passer par l'expropriation des capitalistes. Alors après, nous, on propose quand même une mesure, c'est celle du contrôle des comptes et de la levée du secret bancaire, du secret commercial, en fin de compte, que les travailleurs ils puissent mettre leur nez partout, dans toutes les affaires, dans toutes les choses qu'on nous cache, etc. Parce que c'est les seuls qui auraient intérêt à le révéler, c'est les travailleurs, c'est ceux qui produisent tout dans cette société et qui sont d'ailleurs les premiers à subir les conséquences des décisions qui sont faites.
Il faudrait donc, en fait, les citoyens